Bonjour, c'est Maxime, l'hôte du Green Letter Club. Vous le savez, sur le Green Letter Club, on ne fait pas de pub ou de partenariat bizarre. Bref, on est 100% indépendant. Et pour le rester, on a besoin de vos dons. Alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et pour se financer, on organise aussi des fresques du climat ou de la biodiversité et des conférences sur les questions climatiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Un grand merci du fond du cœur et bonne écoute. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du boom de la voiture électrique, baisse de la pollution sonore, baisse des émissions de CO2 ou baisse de la pollution atmosphérique. La voiture électrique est souvent présentée comme la panacée et ses ventes explosent. Et pourtant, elle génère aussi de fortes pollutions. D'où cette question, doit-on remplacer le parc de voitures thermiques par des voitures électriques ? Pour y répondre, nous recevons Laurent Castagnède, ingénieur chez Renault pendant près de 10 ans, auteur d'Hervor, la face obscure des transports et de la ruée vers la voiture électrique, entre miracles et désastres.
Bonjour Laurent.
Bonjour Maxime.
Alors on va commencer avec une première question. Quand on regarde l'ensemble du cycle de vie d'une voiture, de sa production et de son usage, la voiture électrique est indubitablement moins émettrice que la voiture thermique. À quel point peut-on dire que la voiture électrique émet moins de CO2 qu'une voiture thermique ?
Dans ta question, tu as commencé par dire « est moins émettrice ». Donc tout de suite, je me demande, tu parles de quelles émissions ? Et après, tu termines ta question avec CO2. Bon, en fait, il faut voir que dans l'histoire de la voiture électrique, les émissions qu'elle proposait de réduire, c'est d'abord de la pollution de l'air. C'est d'abord la pollution urbaine, de l'air urbain, et donc la voiture électrique. Bon, il y a sa naissance de la voiture électrique, premier proto dans les années 1880, première vente dans les années 1890. Bon, au départ, la première génération, parce qu'il faut bien voir, aujourd'hui, on est grosso modo à la sixième génération de voitures électriques hein, dans l'histoire. On peut discuter du nombre. Mais en tout cas, la première, c'est la motorisation automobile. Hein, okay, la voiture électrique en concurrence avec la voiture à vapeur et la voiture à essence, de pétrole. Mais ensuite, les autres générations, c'est la voiture électrique qui propose, en fait, du point de vue de notamment de la qualité de l'air urbain, de réduire cette pollution amenée par la voiture à essence. Donc pendant 100 ans, grosso modo, quand tu dis qu'elle n'émet pas trop, on parlait d'émissions dans l'air de polluants. C'est vraiment assez récemment, donc on va dire depuis 20 ans, que là, il y a aussi des émissions de CO2 qui se rajoutent. Mais c'est vraiment deux notions à regarder de manière complètement parallèle. Parce que autant les émissions de polluants, c'est quelque chose qui affecte les poumons, les individus, au moment où le véhicule roule, quelques minutes après, quelques heures, autant le CO2, c'est pas pareil du tout. Le fait que le véhicule émette ou pas de CO2 en roulant, en fait, on s'en fiche. Qu'il y ait plus ou moins de CO2 dans l'environnement de l'air urbain, on s'en fiche complètement. Les émissions de CO2, c'est un ensemble entre la fabrication, etc. Okay. Alors que les polluants urbains, voilà. Donc ta question, en termes de pollution urbaine, effectivement, elle n'a pas de pot d'échappement. Donc en roulant, alors il reste l'abrasion des pneus, qui est quand même un polluant en termes de quantité inférieur à ce qui sort du pot d'échappement. Mais l'abrasion des pneus, c'est quand même un sujet de particules. Un sujet qui risque, avec la voiture électrique, d'être légèrement augmenté, avec le fait qu'elle est plus lourde, mais on peut dire qu'elle freine moins souvent. Ça dépend après si on la compare à une voiture essence ou une voiture essence hybride. Bon, allez, il reste les émissions des pneus, mais quand même, il faut reconnaître qu'il n'y a plus les émissions du pot d'échappement. Donc, les émissions de polluants, il y a vraiment une chute, c'est indéniable. Pour les émissions de CO2, on peut en discuter, parce qu'il va falloir intégrer la fabrication du véhicule qui émet davantage, la fabrication de l'électricité. Quels sont les moyens de production qui vont recharger en électrons la voiture électrique au moment où elle se recharge ? Question. Et puis éventuellement, des nouveaux usages, enfin un changement des usages qui fait qu'elle pourrait éventuellement avoir d'autres conséquences.
Mais alors discutons-en justement, si on regarde, moi j'avais lu un article de Carbon 4 sur le sujet. En gros, en France, une voiture électrique commence à être plus avantageuse qu'une voiture thermique à partir de 30-40 000 km. Elle est, en gros, si on prend une voiture électrique sur l'ensemble du cycle de vie, hein, fabrication plus utilisation, à partir de 150 000, c'est de l'ordre de trois fois plus avantageux, ça émet trois fois moins de CO2, quatre fois moins si on compte 200 000 km. Ça, c'est sur la France avec une électricité bas carbone. Et après, c'est beaucoup moins avantageux à mesure que le mix électrique est plus carboné. Par exemple, en Europe, il est plus carboné. En Pologne, par exemple, il y a beaucoup de charbon.
Alors, dans ce raisonnement-là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui se base sur l'électricité moyenne de la région où l'on est, à supposer que la voiture électrique soit rechargée par l'électricité moyenne. C'est-à-dire que, alors déjà, tu dis la France. Bon, tu as précisé à un moment bas carbone, c'est-à-dire la France, c'est pas que la France métropolitaine. Si tu prends Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, petit territoire, l'électricité, elle est 100% au fioul.
Oui, mais c'est négligeable. Okay. Enfin, en
la Réunion, c'est déjà moins négligeable. Okay, donc la Réunion, ça va être question, là-bas c'est majoritairement du charbon. Si on développe la voiture électrique, il y a des barrages, mais les barrages, on n'en construit plus. Donc c'est un sujet qu'on va aborder donc pour la France métropolitaine. Okay, donc déjà la France métropolitaine. Effectivement, on a une électricité moyenne à bas carbone. Pourquoi ? Parce qu'on a trois quarts de nucléaire, on a pas mal de barrages, des éoliennes, et puis il reste 10% de centrales thermiques. Donc on a une électricité moyenne, effectivement, bas carbone. Mais si on développe la voiture électrique, est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'au hasard des recharges, elle se recharge avec 75% nucléaire, 10% d'hydroélectricité, 5% d'éolienne, etc. Pas du tout. Ça va dépendre de plein de paramètres. Déjà, l'hydroélectricité, on peut la mettre de côté. Parce qu'on ne construit aucun barrage en France. On vit avec nos barrages. Et on ne développerait pas la voiture électrique que ces barrages produiraient exactement la même électricité et il y a des usages en totalité de cette électricité. Okay, ce n'est que dans les années 20, on peut revenir aux années 20, où à l'époque, en fait, il y avait des barrages français qui étaient obligés de produire de l'électricité, notamment la nuit, qui ne trouvaient pas preneur. Et c'est à l'époque, par exemple, qu'à Lyon, on a développé des bus électriques sur accumulateur, parce qu'il y avait de l'électricité de nuit qui était gratuite, mais vraiment gratuite. Personne n'en voulait, elle était perdue. Donc là, d'accord, ok, mais ça n'existe plus aujourd'hui des barrages français. Donc dans le mix moyen, il y a 10% de barrages, mais en fait, il n'y a pas de raison que la voiture électrique puisse se dire 10% de mon électricité vient des barrages, on n'en construit pas. Après, les centrales nucléaires, elles ne sont pas disponibles comme ça à tous les horaires. RTE précise bien qu'actuellement, si on tire au sort un horaire dans l'année, il n'y a que 30% des horaires où on a de la disponibilité nucléaire. Que 30%. Alors la question, c'est, ok, on n'a qu'à recharger la voiture électrique sur ces 30%-là. Comme ça, on aura vraiment beaucoup de nucléaire. Oui, mais ces 30%, ce n'est pas 30% chaque jour. Ce n'est pas juste les nuits. À ce moment-là, on se dira, on n'a qu'à recharger la nuit, on aura du nucléaire. Non, c'est 30% sur l'année avec des grosses variations. C'est-à-dire que ce 30% est quasi nul l'hiver quand il fait froid, parce que quand il fait froid, on a les centrales nucléaires allumées, elles sont à fond tellement il y a de chauffage électrique, etc. Donc si on cherche à recharger sa voiture électrique un jour où il fait très froid, mais du nucléaire, on n'en a pas. Et si c'est un jour où on importe de l'électricité allemande, on importera un peu plus. Donc attention.
Mais ça, c'est l'électricité marginale dont tu parles. C'est-à-dire que, en gros, on est à pleine capacité et donc là, on va brancher nos...
Alors, il y a des moments où on est à pleine capacité et là, on va brancher nos voitures électriques. Qui va les recharger ? Des moyens qui sont capables de produire un peu plus. Eh bien, ces moyens-là, ce n'est pas des éoliennes. Parce qu'il n'y aura pas plus de vent. Okay ? En revanche, on peut dire, oui, mais on va construire des nouvelles éoliennes parce qu'il y a la voiture électrique. Mais les projets qu'on construit actuellement, ils ont été décidés il y a plusieurs années, bien avant qu'on décide que le parc électrique va augmenter aussi vite. Okay ? Donc, si on veut des éoliennes qui rechargent les voitures électriques, il faut les décider. Ce sont des projets en plus que ceux qui étaient déjà dans les circuits, indépendamment de la voiture électrique. Okay ? Alors qu'aujourd'hui, en France, notre rythme d'installation d'éoliennes n'est pas d'ailleurs au rythme souhaité, que l'on aurait souhaité, vis-à-vis de projets qui eux-mêmes ne s'appuyaient pas sur un développement fort de la voiture électrique. Okay ? Donc les éoliennes, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas sur les prochaines années. Le nucléaire, on se dit, ah ben on n'a qu'à construire une centrale nucléaire. Okay, puisque un réacteur nucléaire, il faut regarder en terawatt-heure, etc. Mais ça peut être l'équivalent d'un 2 millions de voitures électriques. Bon, admettons. Mais si tu décides aujourd'hui qu'il faut un réacteur de plus, hein, je dis de plus par rapport aux réacteurs déjà lancés, à peu près lancés, qui vont être juste là pour remplacer ceux qui vont finir leur vie. Donc là, on est en train de se dire, bon, puisqu'on développe X millions de voitures électriques, il faut des réacteurs en plus. Mais ces réacteurs en plus, mais le premier qui sera en service, mais ce n'est pas avant 10 ou 12 ans. Ça veut dire que les voitures électriques de l'année prochaine, etc., mais jamais elles auront de cette marginalité.
Donc toi, ce que tu dis, c'est que le calcul qui est théorique, toujours avancé,
basé sur des moyennes,
voilà. C'est qu'en gros, la voiture électrique en France, c'est 3 à 4 fois plus avantageux.
Ben non,
C'est-à-dire que ça émet 3 à 4 fois moins de CO2. Et toi, c'est un chiffre que tu contestes.
Je conteste complètement parce qu'en fait, ça dépend de paramètres qui sont beaucoup les horaires, les saisons. Ça dépend d'un troisième paramètre qui est la question, est-ce qu'une entreprise ou un particulier se dit, bon allez, j'achète une ou des voitures électriques, et en fait il se dit, je les brancherai sur le réseau. Le réseau va se débrouiller. Deuxième hypothèse, comme je vais augmenter la demande française, mais si je stimule moi aussi de la production supplémentaire, mais à ce moment-là, et là on peut avoir un calcul vraiment très bon, même peut-être meilleur que ce que tu as dit tout à l'heure. Imaginons une entreprise qui a des toits, un grand parking, et qui se dit, la flotte de l'entreprise, il se trouve qu'il y a beaucoup de voitures qui restent stationnées la journée, parce qu'elles circulent surtout le matin, admettons, le soir. Mais si je mettais j'achète 20 voitures électriques, mais en même temps, je vais poser plein d'ombrières sur le parking et je vais équiper tous mes toits de photovoltaïque. Comme ça, je vais augmenter la production française lorsqu'il fera soleil. C'est justement le moment où la plupart de ces véhicules sont souvent stationnés. Et s'ils dimensionnent à peu près, on va dire à peu près, le nombre de mètres carrés correspondant à peu près, mais là, par contre, tu as un calcul marginal bilan carbone qui est très bon. Qui est très bon parce que tu achètes les voitures, il faut les fabriquer, il y a un supplément de fabrication, là, c'est indéniable, la batterie et tout ça. Il y a un supplément à la fabrication qui est que tu vas faire fabriquer des panneaux en plus parce que tu t'équipes de voitures électriques. Donc vraiment à 0 km, il va y avoir le CO2 qui est beaucoup plus qu'une voiture thermique parce que tu as ajouté l'impact de la batterie et l'impact de la fabrication des panneaux. Mais après, c'est zéro carbone. C'est vraiment zéro carbone. Ta tonne d'électricité, elle est gratuite. Et du coup, effectivement, tu arrives vite à 30 000, 40 000 km. Où là, ça y est, c'est remboursé, tu as un très bon résultat. Donc, en fait, quand on dit en France, c'est trop facile. Enfin, si tu veux répondre en une minute, peut-être qu'il faut faire comme ça. Mais en fait, tu as plein de cas différents selon est-ce que tu es producteur supplémentaire lié ou pas, première question. Et si tu ne l'es pas, à quels horaires, à quelle saison? Et là, le calcul peut aller de bien meilleur, plusieurs fois meilleur, comme tu as dit, à certaines situations où si tu ne recharges pas aux bons horaires, souvent l'hiver, etc., eh bien, tu vas retrouver avec, dans ta voiture, beaucoup d'électrons qui seront issus de la suractivation de centrales thermiques françaises, voire même parfois d'avoir alimenté les importations, par exemple, charbonnées d'électricité allemande, si jamais tu t'amuses à recharger à ces horaires-là.
Donc ça, c'est le cas de la France. Donc enfin, moi, c'est la première fois que j'entends ce discours-là qui remet en cause beaucoup plus largement ces chiffres-là. En revanche, c'est très clair, dans les pays qui sont très charbonnés, je pense à la Pologne, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, là, la voiture électrique, pour le coup, n'est pas plus avantageuse que la voiture thermique.
Mais du point de vue du climat, parce qu'effectivement, un pays qui a 80% de charbon, si en marginal c'est 100%, et puis tu fais un calcul à 80%, tu vas aboutir à peu près au même résultat. Bon, ça changera. Mais ça ne veut pas dire que le véhicule électrique n'est pas pertinent, parce qu'il n'y a pas que le climat. Il y a aussi la pollution de l'air urbain. Et si tu regardes la Chine, par exemple, si la Chine développe la mobilité électrique, que ce soit sur deux roues, en ayant passé tous les deux roues thermiques, on peut en reparler, en électrique, c'est qu'il y a un usage très pertinent des batteries, de développer la voiture exclusivement électrique dans les grandes villes, c'est vis-à-vis d'un souci de pollution de l'air. Ok, bon, tant pis pour le climat, on peut imaginer des intérêts supérieurs. Bon, il y a aussi une volonté géopolitique de pouvoir vendre la voiture mondiale aussi dans l'Occident. Hein. On lui a barré la route pendant plusieurs décennies avec les normes de crash test et les normes euro, qui fait qu'il n'y a aucune voiture chinoise, grosso modo, jusqu'à quelques années sur les parcs américains, européens. Et puis que là, avec l'électrique, bon voilà, et puis maintenant, elle est de toute façon, elle a racheté des constructeurs, elle a plein d'ingénieurs d'universités qui sont capables de. Voilà. Mais en tout cas, donc dans ces pays-là, non. Mais je vais te citer un autre exemple. Prenons pour t'expliquer pourquoi l'électricité moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, et qu'en fait, c'est beaucoup plus contrasté, la situation, avec des cas super, des cas moins bien. Tu prends le Québec. Le Québec, l'électricité, elle est 100% verte. Là-bas, c'est 85% d'hydroélectricité, 15% d'éoliennes. Donc, 100% vert. Du coup, tu dirais, avec le raisonnement moyen, ben, on peut développer la voiture électrique au Québec, elle est automatiquement verte. OK ? Bon, malgré la fabrication, mais elle est automatiquement verte. Tu vas faire un calcul en me disant, ben alors là, c'est remboursé en 20 000, 30 000 km. Mais en fait, le problème, c'est qu'au Québec, ils exportent 10% de leur électricité, on va dire aux États-Unis. S'ils développent la voiture électrique sans construire aucun barrage, planter aucune éolienne, ils peuvent très bien le faire, il n'y a pas de problème, ils exporteront un peu moins. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, les clients américains qui lui importent de l'électricité verte, ben, ils vont se rabattre sur du charbon. Donc ça veut dire qu'au Québec, si tu développes la voiture électrique, il faut se dire qu'il va falloir construire des nouveaux barrages. Et là, il y a un problème qui va se poser, c'est que ça dépend de quelle voiture électrique on parle. Parce que la situation en Amérique du Nord, la voiture en général, tu sais qu'elle est plus grosse qu'ici. C'est la voiture de base, on va dire, c'est un gros pick-up. Okay, un gros pick-up américain qui fait de 2 tonnes à 2 tonnes et demie. Version électrique, 2 tonnes et demie à 3 tonnes, t'imagines. C'est le double d'une voiture compacte. Compacte, norme américaine, pour nous, c'est la Golf, tu vois, la Mégane, ce genre de voiture. C'est le double du poids. Okay, ça part, on est sur des 3 tonnes, hein, au lieu de, admettons, 1 tonne 5 en version essence d'une voiture compacte. Donc là, tu as un facteur 2. Tu veux de l'électricité supplémentaire. Ok, des vallées, il y en a disponibles où on peut construire des barrages, contrairement à la France métropolitaine. Tu vas quand même inonder des forêts. Donc tu peux avoir des écologistes qui vont dire « Ah ben non, c'est pas bien d'inonder des forêts, des oiseaux, des arbres. » Et c'est vrai, les énergies renouvelables ne sont pas neutres. Okay ? Mais il faut bien que tu vois la différence qu'il peut y avoir entre le fait de dire aux gens, à la population, que ce soit le contribuable parce qu'il va y avoir de l'argent public, ou les écolos locaux en leur disant « Mais non, il faut passer à la voiture électrique, il faut construire des nouveaux barrages. » Si tu leur montres les véhicules, qui sont des énormes trucs de 2 tonnes et demie à 3 tonnes, tu vas leur dire, admettons, il faut 2 barrages pour pouvoir alimenter tous ces véhicules en version électrique. Si c'est des voitures compactes, c'est-à-dire si on inverse la tendance à l'auto-obésité, constatée depuis 50 ans, les voitures génération après génération sont toujours plus grosses et la voiture électrique, c'est une marge d'escalier en termes de masse et ça continue sur le gabarit. Il te faut 2 barrages si tu veux des véhicules de... Par contre, si tu avais des véhicules compacts, si on était dans un infléchissement vers le bas de la taille, de la masse, mais à ce moment-là, tu n'as besoin que d'un seul barrage. Et là, ce qui risque de se passer, tu vois, j'exagère un peu, mais c'est que si tu dis qu'il faut 2 barrages pour faire des monstres électriques, ben, tu auras 2 ZAD, tandis que si tu dis qu'il faut un seul barrage parce que vraiment l'automobile maintenant, c'est devenu un véhicule plus adapté aux besoins, ben, tu auras peut-être 0 ZAD. Tu vois. Donc, tu vas pouvoir construire ton barrage alors que peut-être tu vas avoir des pires difficultés à en construire 2. Tu vois la relation.
Parce que ce qu'on observe depuis certaines années, et on le voit très bien à la télé, c'est que il y a une électrification massive des SUV, il y a une électrification massive, y compris des gros pick-up aux États-Unis, et donc
annoncée massive. Elle commence à être significative, et on sent que si on n'infléchit pas, ça va être massif.
Mais ma question, c'est une voiture électrique, tu parlais de potentiel tout à l'heure, a un potentiel si jamais ce sont des petites voitures qui sont électrifiées, alors que si c'est des grosses voitures, par exemple, un SUV électrique en France a quasiment la même empreinte carbone qu'une voiture thermique compacte.
Mais en fait, ça, comme je t'ai dit, ça va être très varié en fait, la réponse, hein, selon quels sont les moyens qui vont être... construit ou pas, activé de manière supplémentaire. Donc, la réponse est contrastée. Après, le souci du SUV, ou en général du fait que la voiture électrique, elle ne s'infléchit pas en masse, pire en gabarit, on va dire presque le SUV est légitimé. Parce que si tu diffuses comme information que j'estime fausse, quelle que soit la situation, en France métropolitaine, une voiture électrique, c'est plusieurs fois mieux qu'une voiture à essence, bah, tu légitimes le fait d'acheter un SUV. Puisque tu te dis, bon, l'acheteur moyen qui dit, ouais, c'est vrai que j'achète un truc très gros là, mais comme c'est plusieurs fois mieux, bon, ben, c'est pas grave si c'est un véhicule énorme. Donc là, déjà, ça, c'est très contestable et tu vois la conséquence. Alors que ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on n'a pas des métaux de manière infinie. On n'a pas de l'électricité verte comme ça, si facilement, si rapidement, en quantité, autant qu'on en veut. Tu vois ce que je t'ai expliqué. Et donc, le risque, en fait, qui se passe, c'est que dans quelques années, on se rend compte que les perspectives, si tu veux, de déploiement en masse et de substitution de la voiture à essence par la voiture électrique, elles soient en fait limitées à un moment par un flux à la fois de métaux et un flux de nouveaux moyens renouvelables bas carbone, mais qui ne sera pas au niveau attendu pour qu'elles soient aussi propres qu'on l'aurait espéré. Et c'est ce que j'appelle un scandale, hein, qui pourrait être du niveau du Dieselgate, donc je l'appelle l'Electric Gate. Et ce scandale, en fait, dans quelques années, s'il se produit, il consistera à se rendre compte que on avait dit la voiture électrique, elle est zéro pollution, non polluante, décarbonée. Donc c'est vraiment le miracle technologique. Et puis dans quelques années, on va se rendre compte, bon en fait c'est pas tout à fait vrai, parce que peut-être qu'on se rendra compte que ben, l'électricité moyenne, ben, en fait on n'a pas construit assez de nouveaux moyens. Ah oui mince, en marginal c'est pas si rose que ça. La pollution de l'air urbain, ben, si le flux se tarit, mince, on va pas pouvoir tout substituer. Donc zut, on va se retourner et là on va se rendre compte, mince. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a surtout des SUV électriques, tu vois, des véhicules qui sont surdimensionnés en termes de gabarit, donc qui auraient pu consommer moins d'électricité verte, tu vois, et consommer moins de batteries, enfin consommer moins de métaux individuellement. Donc si tu te dis, ben, la ressource n'est pas infinie, mince zut, on l'a trop concentré sur des véhicules trop gros, forme de gaspillage, tu te retourneras et tu diras, ouais, mais les deux roues, en fait, les deux roues motorisées, les scooters qui polluent et tout ça, qui sentent mauvais, mince, on les a toujours pas entièrement électrifiés. Les bus diesel, mince, il y en a toujours. Et là, tu te dis, mais on est bête. Les batteries, là, qu'est-ce qu'on a fait? On les a concentrées sur des véhicules surdimensionnés auxquels on a donné trop d'autonomie. Aujourd'hui, regarde, tout le progrès technique depuis quelques années sur les batteries, il ne sert pas à faire des batteries plus petites sur les mêmes véhicules, il sert à faire plus, à proposer chaque année 20 km à peu près d'autonomie en plus. Donc là, si ça continue, si on ne fait rien, mais tu vas avoir en gros à peu près tous les véhicules qui dans quelques années vont avoir 700 km d'autonomie, 800. Alors c'est peut-être bien pour partir en vacances, mais si tu te retournes et tu te dis on a un peu gaspillé les batteries, tu vas dire mince, finalement ces batteries qui font 500 kg, 600 kg, il y en a un tiers qui sert au quotidien, qui sert la semaine, et il y en a plus de la moitié qui dort, en fait, qui ne sert qu'une fois par mois. Et ça c'est vraiment, alors que ce morceau de batterie, tu te dis mince, on l'aurait mieux affecté vis-à-vis du climat et de la pollution de l'air sur d'autres véhicules. Et cette extension d'autonomie permise par cette extension de batterie sous la voiture qui sert presque que de temps en temps, mais en fait, on aurait pu, en s'organisant mieux, penser à d'autres solutions techniques pour que ça ne mobilise pas tant de métaux.
Ce que tu dis, si j'essaye de résumer, pour ne pas changer nos usages, on construit des batteries énormes pour pouvoir faire 500 km avec une voiture électrique, alors qu'en fait, c'est ces grosses batteries qui concentrent énormément de métaux et qui concentrent aussi toutes les émissions de CO2. C'est vraiment la batterie qui émet beaucoup à la fabrication, alors qu'on pourrait faire des choix techniques différents. Oui. Avec des batteries. En gros, avec une grosse batterie, on pourrait faire 4 ou 5 petits véhicules.
Oui. Oui, il y a petits véhicules, mais même à la limite à iso-gabarit, lorsqu'on va arriver à des autonomies classiques, parce que c'est le chemin qu'on prend de 700 km, par exemple, homologués, hein, 700 ou 800 homologués, 500, 600 réels, lorsqu'on va arriver là, même à ISO gabarit du véhicule, on pourrait imaginer qu'elle est deux fois trop grosse. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la batterie qui sert que très exceptionnellement, et cette exception, il existe des solutions techniques différentes qui utilisent beaucoup moins de métaux. Donc on n'a pas, enfin on pourrait dire, il y a les remorques allouées au niveau des péages d'autoroute, par exemple, des remorques qui elles-mêmes, à la limite, pourraient être essence ou avec un carburant liquide. Parce que finalement, dans le cycle de vie de l'usage de la voiture en question, ça va être des déplacements exceptionnels. Donc, ce n'est pas forcément une remorque à batterie. Ça peut être une espèce de petit groupe électrogène qui consomme de l'essence. Ça ne sera que de temps en temps, surtout que ces remorques devront être disponibles assez massivement le jour des départs en vacances. Donc, il ne s'agirait pas de dire « toutes ces remorques sont électriques », et à ce moment-là, serait tout à batterie, et il y en aurait une bonne partie de ces remorques qui dormiraient un peu toute l'année et qui ne seraient sorties que les jours de grand départ. Donc, s'ils ne changeraient presque rien au système, si ce n'est que les voitures seraient quand même un peu moins lourdes. Mais, donc, ce n'est pas ça. Donc, ces remorques-là, il y en aurait une partie à batterie, je dirais la proportion qui sert un peu toutes les semaines à des clients, etc. Et les jours de départ en vacances, ce serait plutôt des remorques à essence. Ça, c'est une remorque additionnelle. Mais tu peux avoir le véhicule lui-même. Jusqu'ici, on parlait de voitures essence hybridées, tu sais. C'est-à-dire, mais les voitures essence hybridées, donc hybride et léger, tu fais des économies d'essence. Hybride rechargeable, l'idée c'était de se dire des hybrides rechargeables avec 50 km, 70 km d'autonomie, de dire bah, tous les jours, le quotidien, c'est à peu près ces kilométrages là, donc les gens peuvent se rebrancher tous les jours et exceptionnellement ils utiliseront l'essence. Et puis il y a eu un scandale des hybrides rechargeables qui a éclaté, constatant statistiquement qu'en fait les voitures hybrides rechargeables étaient beaucoup plus utilisées en se rechargeant d'essence et exceptionnellement d'électricité et que du coup leur bilan était catastrophique. Mais c'est aussi parce que on a voulu faire une voiture essence hybride rechargeable, alors que philosophiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est une voiture électrique hybridée d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Une voiture électrique qui a quand même une autonomie, pas de 70 km, mais admettons 200-300, donc à la base, c'est une voiture électrique. Hybridée d'essence, ça veut dire qu'elle a un petit moteur essence qui peut être embarqué, donc moi je t'ai parlé de remorque, mais qui peut être embarqué, mais qui, lui, il faudrait que l'essence en question soit suffisamment chère pour qu'on se dise, mais à la limite, certains l'imaginent même, pourquoi pas avec un petit réservoir d'hydrogène, pour que tu ne passes à la station-service remplir ton réservoir d'essence que la veille de partir en vacances, c'est tout. Donc ça sera vraiment une voiture électrique et exceptionnellement une voiture thermique, tu vois. Alors ça, il y a eu des tentatives, bon, il faut voir comment les choses se passent, mais là au moins, tu te dis, les trajets exceptionnels vont peut-être être un peu plus carbonés, parce que c'est de l'essence, admettons, mais c'est très exceptionnel. mais au moins, en termes de mobilisation de métaux, ça reste contenu à un usage hebdomadaire.
Justement, en termes de métaux, est-ce que tu peux prendre des ordres de grandeur pour voir la différence qu'il y a entre une voiture thermique et une voiture électrique ?
Grosso modo, la voiture électrique jusqu'ici, c'est très minoritaire dans l'usage des métaux. Alors, les métaux dont on parle, on va parler du cuivre, qui est surtout dans en fait, l'augmentation des câblages de la voiture. Une voiture essence, moyenne, etc., c'est 20 kg de cuivre, si tu veux. Et une voiture électrique, la même version, hein, ça va être 60 à 80 kg de cuivre. Donc, tu as quand même plusieurs fois plus de cuivre. OK ? Ensuite, on va parler du manganèse, plusieurs fois plus, du nickel, je t'en parle pas, du cobalt, et puis après du graphite, qui n'est pas un métal, mais qui lui-même, là on parle de dizaines de kilos à chaque fois, hein, okay, on est dans la dizaine ou plusieurs dizaines, bon, pour chacun. Et donc, alors après certains vont dire, ah oui mais le cobalt on peut s'en passer, bon alors pour partie certaines batteries, ben non plus de cobalt, mettre du nickel à la place, après... T'as des programmes en développement où on se dit, bon, alors, cet type de batterie va s'affranchir, mais bon, le cuivre, on ne devrait pas y couper, même si certains disent, ben, on pourrait mettre de l'aluminium à la place, mais l'aluminium, bon, en tout cas, en termes de quantité, jusqu'ici, sur ces métaux critiques que j'ai listés, la voiture électrique, c'est vraiment minoritaire. Et si elle se développe tel qu'on le pense l'année dernière, une prospective à 5-10 ans, ben, en fait, grosso modo, sur l'ensemble des métaux critiques, ben, dans 10 ans, avec les flux annoncés, supposons qu'ils se fassent, la voiture électrique va absorber à peu près la moitié des métaux critiques, alors qu'aujourd'hui, c'est négligeable. Et ces métaux critiques, certains, comme le cuivre, il faut imaginer rajouter un tiers, mais plus on rajoute des nouveaux usages, le tiers bientôt, on va dire que c'est la moitié en plus et pas le tiers en plus. Mais le tiers en plus en cuivre dans le monde, c'est de nouvelles mines. Hein. C'est pas juste des mines à intensifier, c'est des mines à ouvrir. Ça se fait pas si facilement que ça. Et puis après, par contre, c'est des multiplications. Hein. Pour ce qui est du nickel, on parle de 3, 5 fois plus d'extraction de nickel. Donc là, évidemment, c'est des ouvertures de mines. T'imagines, le lithium, pareil, c'est des dizaines de fois plus. En 20 ans.
Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, toi tu le dis dans ton livre, que les constructeurs automobiles investissent dans des projets miniers, dans des entreprises minières. Est-ce que c'est un phénomène marginal ou est-ce que, au contraire, on voit quelque chose qui est en train de se répliquer ?
Moi, c'est quelque chose qui me surprend parce que quand j'ai travaillé dans l'automobile il y a plus d'une dizaine d'années, je travaillais particulièrement pendant plusieurs années autour des lignes d'échappement. Et il se trouve que dans une ligne d'échappement d'une voiture essence diesel, c'est là où il y a en gros les métaux les plus précieux d'une automobile. Ça s'appelle le platine, le palladium, ça vaut l'or. Enfin, le platine, ça a la même valeur que l'or. Pour autant, les constructeurs, de mon souvenir à l'époque, alors que pourtant le platine et le palladium, c'est extrêmement concentré dans le monde, c'est-à-dire l'Afrique du Sud a à peu près la moitié des réserves mondiales, à peu près la moitié du marché mondial, enfin, c'est hyper concentré, hein, davantage que le pétrole. Pour autant, les constructeurs ne possédaient pas des mines en Afrique du Sud. Ils se satisfaisaient quelque part de leurs fournisseurs, des fournisseurs des fournisseurs. Bon, voilà. Donc, bon. Et puis, sur la voiture électrique, depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on constate ? Et je le lis évidemment au risque de flux qui n'arriverait pas au bon niveau attendu, flux décuplé, qui ne sera peut-être pas décuplé. Voilà. Et là, en fait, les gros constructeurs mondiaux sont en train d'investir des centaines de millions de dollars pour posséder des parts de mines de cuivre, des métaux dont on a parlé. Et ça, pour moi, c'est un signe, pas forcément une preuve, hein, mais c'est le signe d'un risque de stress à venir dans quelques années, où on pourrait imaginer les constructeurs mondiaux qui se retrouvent un peu, qui se disent, on risque de se retrouver dans un espèce de jeu de société style richesse du monde, pour les anciens conjugués à ça, où tu as des cartes, hein. Tiens, je possède des mines de cobalt, moi de cuivre, je te les échange, je te garantis. Ce n'est pas que les constructeurs veulent absolument, vis-à-vis des flux attendus de leur production, en se disant, bon allez, dans 5 ou 10 ans, je compte vendre tant de millions de voitures de ceci, je multiplie par des kilos, par tel type de batterie actuelle, nouvelle, je fais mes calculs, j'ai besoin de X par année, de X milliers de tonnes de cuivre, X, Y de ceci, et du coup, je vais acheter des mines. Non, c'est pas ça qui est en train de se passer. Chacun n'essaie pas d'acheter des mines de tous les métaux. On a plus l'impression qu'ils essaient d'acheter des mines, des grosses mines, presque davantage que ce dont ils auront peut-être besoin, mais en se disant, comme ça, je pourrais dealer. C'est-à-dire que, voilà, ah, mais je vais avoir besoin dans quelques années de tant de centaines ou de milliers de tonnes de tel métal, ah, mais moi, j'en ai davantage de tel métal grâce à ma mine, ben tiens, je t'échange, top là. Ok, top là. Et on sent bien que celui qui n'a pas de carte, qui n'aura pas de carte ou pas des cartes assez grosses dans quelques années, bah, il va déposer le bilan. Quoi. Parce qu'à un moment, si jamais il n'y a pas assez de flux attendu, bah, ceux qui ont les grosses cartes vont pouvoir continuer à fabriquer leurs véhicules. ceux qui n'ont pas de cartes ou des cartes trop petites, mais eux, ils vont être obligés d'arrêter leurs usines.
Est-ce que tu peux prendre des exemples d'investissements miniers?
Ah, ben, tu as à peu près tous. Hein. Alors, tu te retrouves avec Tesla, BYD, tu as même le Stellantis, qui investissent, alors les uns en Argentine, dans les mines, les autres en Afrique. Tu retrouves de tout, je l'ai détaillé dans une note, mais tape sur Internet, tu vas vite te voir. Pour moi, il n'y a quasiment pas un constructeur aujourd'hui qui n'a pas entamé la démarche. Et d'ailleurs, les constructeurs européens se sont fait un peu critiquer officiellement récemment, justement sur le fait que les constructeurs historiques européens n'étaient pas en train d'investir suffisamment, d'acquérir suffisamment de grosses cartes aujourd'hui vis-à-vis de ce risque. Ça a été une alerte récente de je ne sais plus quel organisme européen très officiel.
Oui, pour prendre un exemple moi, que j'avais trouvé sur un article de l'Usine Nouvelle, donc Stellantis, le groupe Peugeot, investissant 155 millions de dollars dans un projet de mine de cuivre en Argentine.
Voilà. Exactement. Et les chiffres, c'est bien cela. On parle bien de centaines de millions de dollars, alors que, comme je te disais à l'époque, un catalyseur, c'est obligatoire. Si tu manques de platine, tu ne vends même pas ta voiture essence. Et pour autant, les constructeurs n'avaient pas des parts de mine, à ma connaissance, en Afrique du Sud. Voilà.
L'idée répandue, c'est que la voiture électrique va se substituer à la voiture thermique.
Oui.
On voit d'ailleurs toute une série de législations en Europe, la voiture thermique ne pourra plus être vendu à partir de 2035, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en Californie, c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Or, on voit aussi que le parc de voitures mondial est en train d'augmenter.
Oui.
Aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures, un peu plus, dans le monde. Est-ce qu'on a les capacités en termes de ressources de substituer ce parc-là ou, est-ce que c'est possible de substituer toutes ces voitures dans un parc en agrandissement?
Alors déjà, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une vraie question. D'ici quelques années, je crains que ça coince, justement, et que du coup, on se retourne et on se dise, en tout cas, pas au rythme auquel on veut, parce que tu as le nombre. Effectivement, il y a 1,1 milliard d'automobiles en circulation dans le monde aujourd'hui, et les projections depuis plusieurs années, hein, qui sont a priori pas démenties par la tendance actuelle, c'est qu'on a une augmentation très forte, qu'on ne voit pas trop, nous, en pays occidental. On a l'impression que le parc est assez stable, mais en fait, au niveau mondial, il y a vraiment une croissance forte. La Chine est en train de beaucoup s'équiper en nouvelles voitures, l'Asie en général, un petit peu l'Afrique, et qui fait qu'au niveau mondial, les projections, c'est grosso modo de dire que si rien ne change, entre 2040 et 2050, on verra, il y aura 2 milliards d'automobiles. Donc, si à cet horizon-là, il y a plusieurs centaines de millions de voitures électriques, ça sera déjà un certain succès de la voiture électrique, plusieurs centaines de millions. Mais tu te dis, mais en fait, à cet horizon-là, il y aura peut-être plus de voitures essence qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est quand même un problème, parce que tu te dis, ce n'est pas une substitution, c'est une addition. Alors, c'est vrai que localement, ça peut être une substitution. Si on interdit la vente, qu'on oblige les gens à changer, oui, d'accord. Mais au niveau global, si on se réveille dans 20 ans avec 2 milliards de voitures en circulation, dont Youpi Victoire, 700 millions de voitures électriques, la voiture électrique elle est vraiment bien développée, tu auras 1,3 milliard de voitures essence. Donc ça pose question sur notre capacité à infléchir les émissions de gaz à effet de serre et les polluants urbains dans les zones où il y aura encore beaucoup de voitures à essence. Première question, tu vois? Là, parce qu'elle, du coup, elle s'additionnerait quelque part la voiture électrique. Deuxième problème qui est plus pernicieux, et c'est, je l'évoque comme étant un risque, hein, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais en fait, est-ce que l'industrie pétrolière ne va pas continuer par tous les moyens, évidemment, à essayer de faire du business? Et si tu n'as que, tant qu'il restera des centaines de millions de voitures thermiques, le fait que plus il y a de voitures électriques, tu peux te dire, moins il y aura la pression pour que les voitures thermiques qui restent se partagent les 100 millions de barils, on n'arrive pas vraiment à extraire davantage par jour qu'on arrive à extraire aujourd'hui. Donc il y a un effet rebond potentiel de la voiture électrique qui a une espèce de baisse de pression sur la sobriété naturelle que la voiture à essence ou gazole serait soumise, soit sobriété du nombre, c'est-à-dire en gros on ne peut pas passer à 2 milliards. Imagine la voiture électrique n'existe pas, imagine la technologie n'existe pas. Mais si tu passes à 2 milliards de voitures avec 100 millions de barils par jour qu'on n'arrive pas à extraire, davantage, mais en gros les voitures, soit elles sont deux fois plus sobres chacune, soit on n'arrive pas aux 2 milliards, elles sont moins nombreuses. Tu vois un peu la pression de l'extraction pétrolière. Voilà. Et là, la voiture électrique, vue d'un industriel du pétrole, c'est presque une aubaine pour se dire... le constructeur, excuse-moi, de voiture essence, qui se dit, il y aura moins la pression. Donc ça, c'est un risque. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on développe la voiture électrique, déjà qu'il faudrait laisser sous terre, ce que dit le GIEC, du pétrole exploitable, il faut en laisser sous terre de manière volontaire, ce qu'on ne fait toujours pas aujourd'hui. Mais développer la voiture électrique, ça exige de laisser encore plus sous terre du pétrole, puisque quelqu'un, donc du coup, tu vois, au moment où il se recharge d'électricité avec une voiture électrique, il faudrait qu'au même moment, on garantisse qu'il y ait un morceau de baril supplémentaire par rapport à ce qu'on avait prévu s'il n'avait pas acheté la voiture électrique, qui reste sous terre, tu vois. Donc, bon, je ne dis pas qu'il y aura forcément cet effet rebond, mais ça fait partie des séries de risques qu'il y a des effets rebonds qui se passent et que du coup, on ne soit pas dans cette espèce de discours messianique qui est de dire, ben voilà, la voiture électrique, c'est la solution. Ne changez rien à vos habitudes. La technologie arrive, habitude en termes de consommation de véhicules routiers, d'usage routier, ne vous inquiétez pas, la solution arrive, c'est la voiture électrique.
Il y a un autre, sur cette question de substitution, il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est quand on parle de voiture électrique, on parle de deux choses, on parle du nombre de ventes de voitures par an, on parle aussi du pourcentage du parc qui est électrifié. Aujourd'hui, combien il y a en France, en Europe, sur 100 voitures, combien de voitures vendues sont électriques ?
La part de marché 2022 en France, c'est 13%, aujourd'hui ça devrait être dans les 17%, hein, c'est en augmentation. Au niveau mondial, c'est 10%. Hein, donc ça reste minoritaire. Mais par contre, c'est une croissance qui est 20-30% par an. Hein. Enfin, c'est la croissance propre. Hein, okay. Donc on est 10% au niveau mondial. Plutôt, à l'instant T, plutôt peut-être 13, je dirais. La France, 13 l'an dernier, on doit plutôt être à 17. Mais ça, c'est la France. Après, il y a des pays. La Norvège, on est à plus de 80. Bon, c'est un cas très particulier. Enfin, voilà. Et on a un petit peu tous les pourcentages dans le monde de pas grand-chose. À 80, tu vois, en Norvège. Voilà. Donc, tu as un petit peu tous les pourcentages, mais ils sont tous en augmentation. Voilà, ça, c'est indéniable. Mais ça reste, bon, sauf quelques rares pays, ça reste encore minoritaire, même si c'est en croissance.
Je viens de retomber sur les chiffres. Effectivement, 13% en France, 16% de 2022, 16% au Royaume-Uni, 18% en Allemagne, 22% en Chine, 22% aux Pays-Bas, 2% au Japon, 6% aux États-Unis. Ça veut dire que, en fait, c'est un rythme qui croît certes, mais qui n'est pas. Enfin, ça veut dire que l'ensemble du parc va mettre énormément de temps à s'électrifier.
Mais si on a des métaux en quantité illimitée, tu as quand même une croissance de 20-30% par an. Quand tu dis 6% aux États-Unis, en fait, les États-Unis, c'est comme si tu parlais de l'Europe. Non, en fait, y a des États dans lesquels le pourcentage est beaucoup plus fort et d'autres où il est quasi nul, quoi. Hein. Okay. Donc, il y a vraiment des différences entre la Californie, des États qui suivent un peu la Californie et d'autres qui, à la limite, en voudraient absolument pas avec le lobby pétrolier derrière. Voilà, donc tu as vraiment un peu toutes les situations aujourd'hui dans le monde. Mais en revanche, la croissance du nombre, tu prends n'importe quelle région, tu as vraiment une croissance très forte. Donc, c'est une exponentielle. Une exponentielle avec une croissance de 20-30% par an, si tu la poursuis pendant 10 ou 15 ans, tu vas arriver avec des chiffres très élevés. La question, c'est que cette exponentielle, elle nécessite des flux de métaux, et puis pour qu'elle soit relativement propre, il faut derrière qu'il y ait le flux équivalent de nouveaux moyens renouvelables qui fabriquent de l'électricité à peu près verte, qui suivent aussi la cadence, tu vois. Elle risque de... Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va, mais est-ce qu'on va réussir à mettre en service de manière croissante
Mais est-ce que cette exponentielle peut continuer ? Parce que la voiture électrique a aussi un surcoût par rapport à la voiture thermique classique. Donc on se dit peut-être que c'est les riches qui s'équipent d'abord et qu'après voilà. Ça va plafonner.
Il y a toujours une promesse dans l'automobile historique de percolation. C'est-à-dire au départ, oui, c'est les gens aisés, mais après ça redescendra. Et effectivement, il y a plein de cas dans le monde où la voiture électrique en Europe de l'Ouest était d'abord une clientèle très aisée, puis petit à petit, tu prends le Cornio 1963, hein, tu vois que Bourville, c'est vraiment le français moyen et il a juste les moyens de s'acheter la 2 chevaux. Donc c'est la voiture de base, la plus basique du marché de l'époque et c'est le français moyen. Tu vois, 1963, c'est là où les ménages français, il y en a la moitié, il y en a 1 sur 2 qui acquiert une voiture. Tandis que celui qui est très aisé, hein, Sarouillant, il roule en Rolls, tu vois, voilà. Bon. Donc tu vois, les années 60, les ménages commencent à s'équiper assez sérieusement. Mais après, tu as un risque quand tu dis « oui, elle est chère ». Bon, alors effectivement, elle est plus chère, mais attention, parce qu'elle est plus chère à l'achat, mais à l'usage, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup moins chère.
Oui, oui, okay, certes, j'entends bien, mais c'est quand même... Enfin, le frein, il est justement à l'achat.
Voilà, il est à l'achat, sachant qu'elle est moins chère à l'usage, mais attention, il y a un bémol à mettre à l'usage, c'est qu'il se trouve que l'énergie à l'usage aujourd'hui est très peu taxée, c'est-à-dire que l'électricité, ben, en gros, je simplifie, il y a la TVA dessus, et il n'y a pas la TICPE, ex-TIPP. Il faudra voilà, l'essence à 2 euros, en fait, il y a 1 euro de taxe. Donc, quelqu'un qui passe à l'électrique, il y a 1 euro de moins de recettes de l'État à chaque fois qu'il ne consomme pas le litre d'essence en question. Donc, du coup, tant qu'il n'y a pas trop de voitures électriques, les finances de l'État, on va dire, ça passe, mais... S'il commence à y avoir beaucoup de voitures électriques, à un moment, l'État va se dire « mais je ne récolte plus le 1 euro à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui brûle un litre d'essence. Ben, je ne le récolte plus, il va bien falloir que je le récolte auprès des gens qui se sont équipés en électrique et qui esquivent 7 euros. »
Sachant que c'est une taxe qui sert grosso modo à financer les infrastructures routières.
Oui, voilà, c'est ça. Alors on pourrait dire qu'il y aura un peu moins de malades. Bon, mais c'est vrai que tu as raison. Il y a le premier cas que je connais dans le monde, c'est qu'il y a un État australien qui, un ou deux, un État australien qui a commencé à créer une taxe, parce que le problème de l'électricité, c'est que tu peux te recharger au niveau ni vu ni connu chez toi, et puis c'est noyé dans la facture électrique du logement, t'as pas un compteur spécial aujourd'hui où l'État pourrait te dire, bon, donc t'as un État australien où tu dois, de ce que j'ai compris, déclarer tous les ans le nombre de kilomètres que t'as fait avec ta voiture électrique, et du coup t'as une taxe spéciale, X centimes de dollars australiens, pour essayer de récupérer une partie de la taxe que tu ne paies plus parce que tu n'as plus de voiture essence. Et si jamais tu t'amuses à sous-déclarer, mais en fait, quand tu passes au contrôle technique, on voit bien les kilomètres que tu as fait, et du coup, on pourra corréler avec le fait que tu n'as pas fait une fausse déclaration. Bon, alors, ça crée du remue-ménage là-bas. Mais en tout cas, voilà, tu sens bien que quand elle va se développer, il y a quand même une perte financière du contribuable. Et voilà, donc c'est pour ça que le coût, effectivement, à l'achat, il est plus cher. À l'usage, il l'est moins. Alors, il restera moins cher si on rajoute une taxe équivalente, etc. Mais le calcul n'est plus le même. Mais attention, le coût baisse. Il faut faire attention à quelque chose, un raisonnement qui consiste à dire il faut beaucoup de voitures électriques parce que c'est quand même bien. Bon, on va espérer qu'elles ne soient pas aussi grosses. On pourra discuter de comment arrêter l'auto-obésité, si tu veux. Mais attention, il faut faire attention. Il faut que la voiture électrique, effectivement, je pense que c'est bien, pas le gros SUV, etc., deviennent moins chers que la voiture essence, mais c'est en relatif. Parce que si tu le cherches en absolu, c'est-à-dire tu dis, ben, la voiture essence, elle reste à peu près au même coût, avec ses coûts d'achat, son coût d'essence qui est stable, et la voiture électrique, il faut qu'elle soit moins chère. Et là, attention, parce que dans l'histoire des transports, le motus vivendi des transports, c'est, historiquement depuis 2 siècles, à chaque fois qu'on a proposé un transport plus rapide et moins cher, il y a eu un effet rebond sur l'usage, par les distances, par les fréquences. Donc ça veut dire que sur le panorama actuel de la voiture essence, si tu crées une nouvelle voiture, peu importe ce qu'elle est, qui est aussi rapide ou aussi lente, pareil en vitesse, mais qui est moins chère, tu risques de te retrouver avec des rebonds d'usage. Et ça, c'est embêtant, c'est-à-dire d'augmenter l'usage. Donc en fait, quand on dit il faut que la voiture électrique soit moins chère, je dis oui en relatif, mais en fait, il faudrait penser à renchérir en fait la voiture thermique, tu vois, plutôt que de baisser le prix. Alors renchérir la voiture thermique, ça peut être embêtant parce que gilet jaune, etc. Mais renchérir le coût marginal de la voiture essence, ça sous-entendrait se dire qu'il va être plus cher de rouler des kilomètres avec une voiture thermique à l'avenir, annoncer ça aux gens, dégager de l'argent pour ça, pour aider notamment les ménages modestes qui verraient arriver des factures d'essence à une essence à 3 euros, 4 euros en disant « Ouh là là, je ne vais pas tenir, évidemment ». Et l'État est là pour dire « Mais comment pourriez-vous consommer moins de litres ?» Et ce n'est pas forcément en vous donnant une voiture essence hyper machin. Ça peut te dire, mais pourquoi vous êtes à 40 km de votre travail? Est-ce que l'État ne doit pas vous aider à déménager ou aider votre employeur à se décentraliser pour essayer de réduire les distances domicile-travail, surtout les distances excessives des populations modestes versus gilets jaunes? Et donc, un petit peu comme quand le prix du gaz augmente et que des ménages modestes dans des logements énergivores voient arriver une facture qu'ils ne vont pas pouvoir payer, l'État est là pour les aider, pas pour leur financer le kilowattheure de gaz, mais pour leur financer l'isolation de leur logement. Okay, voilà. Donc attention, quand on dit qu'il faut qu'elle soit moins chère, oui en relatif, non en absolu, de mon point de vue.
Alors dans ton livre, j'ai lu quelque chose que j'ignorais, mais tu cites une interview de l'ancien patron de Toyota en 2022 qui a des doutes justement sur la possibilité de voir, sur cette tendance du tout électrique. Tu te fais l'écho aussi d'autres grands patrons du secteur automobile qui ont des doutes sur cette tendance à ne produire que des voitures électriques. Dans l'industrie, on doute.
Je pense que oui, en tout cas lui, donc c'est Toyoda, donc, alors qu'il n'est plus, il n'est plus PDG de Toyota depuis quelques mois, Mais en tout cas, lui, il parlait de, alors lui-même, hein, de majorité, à l'époque, hein, donc il y a un an, hein, de majorité silencieuse de constructeurs, mais à qui quand même on a forcé la main du passage à l'électrique, et qui émettrait des doutes, qui émettait des doutes sur la capacité du système à être capable de produire autant de voitures électriques, déjà en quantité, donc on a parlé de flux de métaux. C'est les mêmes doutes que j'ai moi. D'ailleurs, ce sont des gens, moi, comme eux, qui ne disent pas que la voiture électrique, c'est à mettre à la poubelle. Hein. Absolument pas, hein. C'est pas ça le sujet. L'électrification, c'est une super idée. Mais c'est le risque que ça ne soit pas possible au flux attendu, que ça concerne des véhicules surdimensionnés, et qu'on se rende compte que ben, l'électricité en question, elle n'est pas aussi verte et pas aussi vertueuse que l'on ne pensait. Donc lui, il parlait de majorité silencieuse de constructeurs à l'époque, donc on sous-entend qu'il était au courant, qu'il n'était pas tout seul à penser ça. Bon, Toyota, c'est quand même l'un des plus grands constructeurs mondiaux.
Le premier.
Et puis, mondiaux. Et puis il y a ben, le patron de Stellantis, Tavares, qui avait fait plusieurs déclarations un peu avant, en disant, est-ce que quelqu'un est en train de vraiment poser le sujet de manière globale pour voir si cette imposition du tout électrique, notamment en Europe de l'Ouest, à un horizon d'une douzaine d'années, on ne va pas dans le mur, c'est-à-dire on est dans une forme d'illusion. Voilà, illusion de la possibilité que ça soit réalisable dans les quantités espérées et que ça soit si vert que ça en termes de pollution de l'air et d'émissions globales de gaz à effet de serre.
Finalement, quand on voit cette question de la voiture électrique, on a un peu l'impression que c'est un cache-sexe du statu quo, c'est-à-dire que ça nous décomplexe sur le fait, t'en parlais tout à l'heure, d'acheter une voiture, mais qu'en fait, ça ne nous fait pas changer les usages qui devraient être la priorité absolue. C'est ça le problème de la voiture électrique, c'est pas qu'elle soit mal en soi, c'est-à-dire qu'elle est plutôt, même si c'est vraiment qu'elle ne nous fait pas changer les usages alors que les objectifs climatiques doivent être très rapidement atteints.
En fait, c'est une question générale, la voiture électrique, ça n'est jamais qu'un exemple qui questionne en fait la place de la technologie dans nos avenirs et dans nos imaginaires en fait. La voiture électrique, il y a un intérêt pour des constructeurs, certains dirigeants, de la présenter comme étant la solution, là, toute seule. C'est-à-dire du coup qu'elle devienne une forme de divertissement au sens divertere, c'est se détourner d'eux. C'est-à-dire, si on dit que c'est la solution, tu te dis, c'est pas la peine que je regarde ailleurs. Si je te dis c'est une solution, tu te dis, bon, ok, alors c'est une solution, on y réfléchit, mais ça veut dire qu'il y a autre chose à côté. Et dans les autres choses, il y a notamment la sobriété. Et donc, quand on te présente comme la solution, ce qui est embêtant, c'est pour te détourner notamment de la sobriété, c'est-à-dire, comme tu as dit, sobriété d'usage, mais sobriété du véhicule lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit, la solution, il suffit de changer de voiture, donc elles peuvent être encore plus grosses qu'avant, la tendance, mais c'est pas grave, c'est la solution, tu vois. Donc, c'est pour te détourner, en fait, de te poser la question, mais est-ce qu'elle n'est pas trop grosse? Est-ce qu'elles ne sont pas trop nombreuses? Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, c'est ça qui m'embête, en fait, dans la situation actuelle, c'est que tu as une super idée, mais qui est tellement portée au nu qu'en fait, tu te demandes si elle n'est pas là pour masquer la réalité des décisions les plus efficaces qu'on devrait le prendre, et c'est donc se questionner sur le nombre et sur la taille des véhicules et leur usage, tu vois. Donc, c'est ça qui est très embêtant sur la voiture électrique, mais en général, sur la place de la technologie, qui, dans beaucoup de cas, tu te demandes si ce n'est pas un espèce d'écran de fumée et que bah, dans quelques années, on va se rendre compte qu'on aura gâché en fait, son potentiel. Tu vois, le GIEC dit bien, pour s'agissant du climat, que la voiture électrique, bien le GIEC, il ne dit pas qu'elle est géniale. Hein. Il dit qu'elle a le potentiel d'être très bonne pour le climat. Le potentiel, sous réserve que, et le GIEC parle bien, d'usage de métaux qu'il va falloir faire attention à ne pas trop les gaspiller, d'ouverture de mines, d'électricité bas carbone qu'il va falloir faire attention que ça soit bien elle qui recharge les voitures en question. Tu vois, il y a des si derrière, en fait. Hein, il n'y a pas d'automaticité.
Si on était un peu sérieux, on pourrait dire que la voiture électrique, ça pourrait être l'avenir de la voiture. En revanche, la voiture individuelle, ça n'est pas... Et la vraie question, elle est là. La voiture individuelle, ce n'est pas l'avenir de la mobilité.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, sur ce sujet-là... Moi, je pense, mais ça, c'est en boule de cristal, hein, on verra dans quelques années, je pense qu'on sait qu'il faudrait, dès aujourd'hui, dès hier déjà, infléchir, en fait, à la fois l'usage, l'auto-obésité dont j'ai parlé, que les voitures arrêtent de grossir à chaque génération, mais qu'elles maigrissent, qu'elles soient certainement moins nombreuses, pour des usages moins contraints. Voilà, donc ça. Et on a beau multiplier les études, les preuves qu'il faut changer, on sent que ça bouge pas franchement. Okay. Et moi, ce que je crains, c'est que on doive nécessairement passer par un clash, quoi, hein, tu vois, une espèce de scandale où là, on constaterait sérieusement que on a gaspillé les ressources, on n'a pas d'électricité renouvelable que l'on voulait, etc. Et qu'à ce moment-là, qu'on bascule, qu'on mette pas la voiture électrique à la poubelle du tout, mais qu'on bascule sur une autre voiture électrique, qui inclurait ce que tu dis. C'est-à-dire une autre voiture électrique, c'est une autre philosophie, si tu veux, de la voiture électrique. C'est donc que les très gros véhicules électriques, ça sera réservé à des usages très minoritaires, professionnels, dûment justifiés. Que la voiture moyenne, en termes de gabarit, soit beaucoup plus contenue. Que sa batterie, elle soit relativement contenue, sauf s'il y a des usages fréquents qui justifient qu'elle soit grosse. Qu'on pense à dire qu'il n'y a pas que la voiture automobile, que ce n'est pas forcément la priorité dans certains cas d'équiper les automobiles de batterie, mais il y a quand même peut-être d'autres priorités comme les deux roues, les bus, certains fourgons de livraison, peut-être qu'on les a délaissés, ça serait une priorité, tu vois. Et puis effectivement, comme tu dis, en usage, et on l'a dit tout à l'heure, d'essayer de se dire, mais tous ces déplacements contraints, tu vois, la personne qui travaille à 30, 40 km, et puis qui est cloué à sa roue, comme disait Ivan Illich, tu vois, c'est le monopole radical. Il peut utiliser que sa voiture. Évidemment, il ne va pas prendre un vélo ou autre chose. Son travail est à 30-40 km. Comprendre qu'on est arrivé dans cette situation parce qu'on a équipé tout le monde de ce moyen, qui était finalement pas très cher, que les premiers qu'il avait sentaient qu'ils avaient de la vitesse, mais ensuite, tout s'est regroupé, le travail s'est regroupé, les gens ont trouvé un intérêt à trouver un foncier moins cher ailleurs. Bon, et puis après, ils se retrouvent complètement dans un déplacement contraint. Et se dire, il va falloir repenser notre organisation avec des aides pour réduire les distances du quotidien, casser ce monopole radical qui fait qu'à partir d'une certaine distance, en gros, tu n'as plus que la voiture, quoi, t'es coincé. Donc voilà, toute cette philosophie, j'ai la crainte que pour y arriver, si tant est qu'on y arrive, on soit obligé de passer par un moment très difficile sous forme d'une espèce, de grosse récession, etc. C'est un peu pessimiste, mais j'ai du mal à croire que par le raisonnement, on arrive à convaincre, même si tu y travailles, par ton travail, Maxime, à convaincre, et tu sais, ça marche, de plus en plus de gens qui ont conscience de tout ça, qui commencent à moins voir les discours, mais regarde la publicité automobile aujourd'hui. Je veux dire, t'as peut-être un spot qui te parle de sobriété pour 100 spots qui te disent que tu seras plus heureux dans cette ville vide, sans embouteillage, avec ton gros SUV, tu vois. Électrique, ok, c'est vert.
Dernière question, est-ce qu'il y a des alternatives à la voiture électrique de manière générale qui te semblent crédibles, des pistes techniques qui sont intéressantes, ou simplement des sujets qui te paraissent importants sur cette question-là qu'on n'aurait pas abordé?
Alors, c'est vrai que là, on a parlé de la voiture électrique à batterie. Dans le livre, à un moment, je consacre un chapitre pour voir un peu, effectivement, historiquement, c'est ça, hein, la voiture électrique, historiquement, ça a toujours été, depuis le départ, une voiture batterie au plomb, etc. Bon, voilà, un moteur électrique, une batterie suffisamment grosse pour assurer suffisamment d'autonomie ou insuffisamment.
Oui, c'est assez drôle, d'ailleurs, tu montres que dès les années 1900 ou un peu avant, il y avait déjà des... Alors, le problème de l'autonomie se posait, mais il y avait déjà des voitures qui avaient des centaines de kilos de batterie.
Ah oui. Dès 1895, là, Chargento, quand il participe à la première course automobile Paris-Bordeaux-Paris, il est le seul à postuler en voiture électrique. Hein, et il fait un proto de 2 tonnes avec une batterie de 700 kilos. Mais comme il a que à peu près 40 km d'autonomie, en fait, il fait fabriquer une quinzaine de batteries de 700 kg qu'il fait disposer en les amenant, je crois, en train tous les 40 km sur tout le trajet entre Paris et Bordeaux, avec un système ou avec ses techniciens qu'il a sur place et qu'il a avec lui, ils sont deux sur la voiture, pour déboulonner en un quart d'heure et changer la batterie, en se disant, donc du coup, il a ses batteries comme ça, donc il a 700 kg de batterie en un quart d'heure ou une demi-heure à substituer, qui auraient été préalablement chargées, en se disant qu'au retour, il passera par les mêmes endroits, et voilà, donc tu vois un peu l'investissement que ça représente pour lui, alors qu'à côté, il a des voitures essence qui se rechargent en essence, puisque, tu vois, la voiture électrique n'a jamais réussi à s'imposer en Europe de l'Ouest, même au début, malheureusement, parce que la voiture essence en face, il y avait les routes, historique, le vieux pays, la France, la Belgique, etc. Et donc il y avait des routes entre les villes qui étaient déjà là, contrairement aux États-Unis, et de l'essence disponible. Parce qu'en fait, l'essence, c'était un produit d'entretien qui était disponible dans les pharmacies et les épiceries avant l'automobile en bidon de 5 litres. Donc la voiture à essence, facilement, elle pouvait avoir de l'autonomie, tu vois. Elle avait déjà plus d'autonomie à la base en démarrant, et en plus, on trouvait des bidons de 5 litres facilement. Alors que l'électricité, même si on la trouvait dans les villages qui étaient électrifiés, il fallait une certaine tension, etc. Donc non, c'était trop risqué sur la batterie, il fallait qu'elle retourne à son garage. Bon. Et donc, ta Chargento, qui avec ce proto, il a un problème d'essieu, etc. Bref, il arrive dernier à l'aller, donc Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Il arrive dernier, tant bien que mal, en substituant ses batteries, etc. à Bordeaux. Il arrive dernier, il abandonne, mais en fait, la presse salue l'exploit. Même s'il arrive dernier, il abandonne et voilà. Et donc, tu imagines, il croise tous les concurrents alors qu'il n'est pas arrivé en Bordeaux, qui était déjà dans le chemin inverse. Et là, on se dit, bon, ben, la voiture a peut-être de l'avenir, tu vois, la voiture électrique. Et puis, quelques années plus tard, les fiacres, les compagnies de fiacres à chevaux vont commencer à investir dans la voiture électrique. On se met à y croire, voilà. Donc, pour te dire, la voiture à batterie, ça a toujours été historiquement la voiture électrique de base, si tu veux. Mais il n'y a pas que cette solution technique autour de ça. Je consacre un chapitre à me dire, mais en fait, il y a d'autres voitures électriques que celle qui est batterie, moteur. Et donc, tu en as plein, en fait. Tu en as une petite dizaine. Alors, je sais pas, on peut en citer d'autres, hein, mais tu as la voiture à hydrogène, par exemple. La voiture à hydrogène d'aujourd'hui, on se dit, bon, c'est pas de l'hydrogène en prenant du méthane qu'on va craquer, ce qui est l'hydrogène gris actuel. Hein. À ce moment-là, si tu prends du méthane, tu craques, tu le sépares, tu obtiens de l'hydrogène, tu fais rouler la voiture, bon, elle pollue moins, mais en termes de climat, du coup, tu émets du CO2, donc tu te demandes s'il vaut mieux pas prendre le méthane et avoir une voiture. C'est Shadok qu'on a inventé un truc compliqué, alors que tu pourrais avoir une voiture au gaz. Mais à ce moment-là, on se dit, ah oui, mais c'est une voiture à hydrogène vert. Donc hydrogène venant d'électricité renouvelable, et du coup c'est une voiture électrique, parce que tu as de l'électricité, ok, tu fabriques de l'hydrogène, tu le mets dans les réservoirs de la voiture à hydrogène que tu retransformes en électricité dans la voiture pour faire tourner un moteur électrique. Donc en fait c'est une voiture électrique, la voiture à hydrogène vert, c'est une variante.
Ouais, mais
donc,
avec une pile à combustible avec plein de...
Pardon ?
Avec une pile à combustible avec plein de métaux très rares.
Mais pile à combustible qui permet d'obtenir l'électricité et de faire tourner un moteur électrique. Donc en fait la voiture à hydrogène vert, c'est une voiture électrique. T'as les petites voitures électriques, toutes petites. Aujourd'hui, tu commences à en voir. On se dit, la voiture, elle est beaucoup trop grosse. Il faut une petite voiture. C'est écolo. Analyse de cycle de vie. Tu fais ton calcul. Ah oui, plus la voiture est petite, mieux c'est. Et moi, je te réponds, plus elle est petite, à un moment, il y a un effet de seuil où c'est une cata. Et l'effet de seuil, par exemple, c'est la voiture électrique sans permis. Aujourd'hui, les plus petites voitures électriques. Mais en fait, si tu regardes quel est le marché qui est au volant, c'est des lycéens. Donc à ce moment-là, cette petite voiture électrique qui a son analyse de cycle de vie très bonne, c'est un lycéen qui est dedans. Mais attends, si elle n'existait pas, ce lycéen, il serait à pied, en vélo, en scooter, qu'on imagine électrique, ou en bus. Et là, on a une voiture de plus. Alors certes, elle est petite, certes, elle est électrique, mais c'est complètement dans l'addition. Donc attention, la proportionnalité, tu vois, donc tu as les mini-voitures, tu as la voiture air comprimée qui, à un moment...
Parlons-en, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent toujours avec cette idée de la voiture à air comprimée. Est-ce que la voiture à air comprimée, c'est une solution technique qui est crédible ?
La voiture à air comprimée, il faut voir que historiquement, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à l'époque des tramways, donc on est fin 19e, il y avait des tramways qui tournaient, donc, au système Mekarski, un ingénieur franco-polonais. Et donc, tu avais quelques lignes de tramways, pas qu'à Paris, qui ont tourné pendant des années avec des moteurs à air comprimé, tu vois ? Donc, moteur air comprimé, l'idée, c'était d'avoir un réservoir d'air comprimé au début, en bout de ligne, puis avec, grâce à cette réserve que tu lâchais petit à petit, tu faisais tourner un moteur et tu arrivais en bout de ligne à la fin et puis tu avais l'autonomie pour pouvoir faire ta ligne. Et là, tu devais recharger. Alors, ça a vraiment marché, tu vois. Donc, tu as vraiment eu des véhicules à air comprimé avec le souci du rendement, c'est-à-dire que plus tu comprimes l'air, en fait, plus ça s'échauffe, donc tu perds de l'énergie en chaleur. Donc ça veut dire que tu as ton rendement qui baisse au fur et à mesure que tu veux que ta réserve soit importante. Ça, c'est embêtant en termes de rendement global. Et puis deuxième problème, c'est que du coup, quand tu décomprimes, tu crées du froid. Et donc si tu décomprimes beaucoup, tu finis par geler les canalisations. Donc tu as des pannes. Donc c'est pour ça qu'à même à l'époque, tu vois, en fait, il y avait des systèmes où les tramways embarquaient des réserves d'eau chaude. Et donc tu avais un réservoir d'air comprimé, un réservoir d'eau bouillante presque, tu vois, pour lâcher de la vapeur en même temps, pour pas que les canalisations gèlent, voire des systèmes où tu brûlais de l'essence pour ne pas faire geler des canalisations, tu vois. Donc tu en arrivais à une espèce de... Bon, donc tu sens un peu les limites du système en termes d'autonomie, en termes de complexité, de refroidissement. Et donc il y a eu effectivement, dès le début du XXe siècle, des idées comme quoi de se dire, mais oui, mais la voiture urbaine de l'avenir, est-ce que c'est pas la voiture à air comprimé, tu vois. Donc c'était une variante de la voiture électrique, vécue comme étant une variante possible, même au début du XXe siècle, pour l'automobile, hein, pas de problème. Mais très vite, les ingénieurs, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'équations pour te rendre compte que c'est vite énergivore. parce que tu as besoin de mettre beaucoup de pression d'air et donc il faut des réservoirs compliqués, tu vas perdre de l'énergie et tout ça. Et on sent bien dès les années 1900 et quelques que bah voilà, ça a un avenir très limité en termes d'autonomie. Et la réalité, c'est que tu as des voiturettes de golf, éventuellement des chariots élévateurs, tu vois, ce genre d'usage, mais ça n'a jamais émergé pour l'automobile, même si à un moment, le constructeur Tata indien, un gros constructeur, a envisagé que ça puisse devenir, mais les prototypes n'ont jamais évolué en série.
Bon, dernière question pour le coup, si tu as un message à adresser aux gens qui nous écoutent, on voit bien que c'est une question qui est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Par exemple, des gens qui se posent la question, est-ce que je dois, moi, acheter une voiture électrique? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Ouais, c'est compliqué parce que moi, je ne suis pas du tout contre. C'est vrai que tu vois, j'émets énormément de critiques sur la voiture électrique, sur son développement. J'en émets d'autant plus que je trouve qu'il y a vraiment trop de messages dithyrambiques qui nous disent, voilà, fermez les yeux. Achetez-la, c'est plusieurs fois mieux, tu vois. Je dis attention, il y a des cas différents, c'est pas si simple, ça va pas forcément se passer comme ça si jamais à côté, voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de gaspiller, tu vois. Donc mes messages sont assez sévères globalement, mais ils ne sont pas contre l'idée de la voiture électrique, ok. Ils sont plus contre la tendance actuelle. Donc vis-à-vis de finalement un message auprès de quelqu'un qui se dirait bon, il y a quand même une idée derrière qui est à creuser. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il va y avoir beaucoup de cas. La première question, c'est quoi mes déplacements, je sais pas, sur une année, quoi. En gros, combien je fais de déplacements de 10 km, de 50, de 300, tu vois, combien... Bon, déjà, il y a... Et la réponse ne sera évidemment pas forcément la même selon les usages prévisionnels. Déjà, ça, c'est un premier sujet. Donc ça ne sera pas forcément la bonne réponse. Bon. Et je ne dis pas forcément que lire le livre apportera de manière automatique, même si ça apporte beaucoup d'éléments. Voilà. Après, deuxième sujet, c'est quand même avoir en tête qu'à partir du moment où on bascule à l'électrique, on va augmenter la demande électrique. Ça, c'est évident. Donc du coup, se dire, mais est-ce que je ne peux pas moi-même être producteur, tu vois? C'est-à-dire augmenter moi-même la production électrique, pas forcément exactement en même temps, hein. C'est-à-dire du coup, ben, ma facture électrique, peut-être prendre un opérateur électrique ou l'argent que je vais donner va faire que cet opérateur va investir davantage dans des moyens supplémentaires d'électricité renouvelable, alors que sinon, si je ne le faisais pas, ben, il aurait moins de deniers. Voilà. Donc, ça peut être ça. Ou alors moi-même, tiens, j'ai un toit disponible, je ne pensais pas y mettre des panneaux photovoltaïques dessus, mais je vais déclencher cette action parce que je vais acheter la voiture électrique, parce que je me dis, mince, je vais augmenter la demande, ça serait bien que moi, j'augmente un peu l'offre, tu vois, même si ce n'est pas proportionnel, exact, tu vois, au moins tu participes. Donc déjà, il y a une question, c'est un ami qui me suggérait ça dernièrement, qui me disait, mais est-ce qu'à l'avenir, les constructeurs, dans leur succursale, quand ils vont te vendre une voiture électrique, est-ce que ça ne serait pas de leur devoir, au moment où tu t'apprêtes à l'acheter, de te dire, mais il y a une option, c'est, on pose des panneaux photovoltaïques chez vous, par exemple, tu vois, et on s'en occupe. C'est-à-dire que le constructeur d'automobile, il aurait une espèce de responsabilité à augmenter lui-même, tu vois, voilà. Donc ça, c'est un point important. Après, deuxième, évidemment, on a dit, Alto SUV, etc. Donc là, évidemment, de basculer que sur un gros véhicule, que c'est sur un usage, je dirais, professionnel, etc. Essayer de se cantonner, aller à 1,5 tonne, tu vois, pas acheter un trop gros truc. Donc prendre une voiture plutôt basse, tu vois, tout simplement. Un break si j'ai besoin de volume, mais pas un véhicule haut, tout simplement, qui est nécessairement plus lourd, plus de prise au vent, il consommera forcément davantage d'électricité, davantage de batterie. Après, se demander la batterie, pas forcément prendre une autonomie énorme, mais l'ennui, c'est que bien se dire ben, comment je vais pouvoir faire, ce qui est embêtant. Si je vais, je sais pas, à la montagne, à plusieurs centaines de kilomètres, deux fois, trois fois par an, comment je vais faire ce jour-là? S'interroger, se dire, bah, tant pis, on ira à l'hôtel à mi-chemin, et puis à un moment, on rechargera. Voilà, peut-être prendre sur soi, de ralentir un peu la durée du trajet. Et ce qui est important, tu vois, dans l'histoire des transports, c'est les trajets plus rapides et moins chers qu'on conduit à une augmentation d'usage. Donc on se dit, bah, la première idée, ça serait de les ralentir et de les renchérir. Donc finalement, se dire, je vais devoir me recharger un peu moins facilement, ça va me prendre un peu plus de temps sur mon trajet, bah, c'est une forme de ralentissement. Donc ça veut dire que du coup, bah, si j'ai 700 km à faire et que je dois passer plus de temps à me recharger, mais je ne vais peut-être pas y aller pour 2 jours, tu vois. Je ne vais pas y aller 3 fois pour 2 jours, je vais y aller une seule fois pour 10 jours, tu vois. Donc peut-être que ça peut participer justement à un peu moins d'usage que de se ralentir, et de se ralentir en disant, bah, une recharge qui va m'embêter un peu, ça fait peut-être partie de ma vitesse moyenne qui va baisser.
Laurent Castagnet, un grand merci d'être revenu nous voir dans le Green Letter Club.
Au plaisir de revenir.
À bientôt.
Merci.